le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Je suis aujourd'hui en compagnie de Agnès Gerbe. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et Marie-Noëlle. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toutes les deux de l'association Alternativa et vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un petit peu de cette association et de ses actions, plus particulièrement en ce qui concerne l'aviation. Alors Agnès, est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça consiste Alternativa ? Qu'est-ce que c'est, vos actions, vos valeurs surtout ?
Oui, alors Alternativa, c'est un mouvement citoyen qui existe depuis 2013 maintenant. Partout en France, il y a en tout 130 groupes locaux sur toute la France et même quelques-uns à l'étranger, en Haïti, au Congo, au Sénégal notamment.
Donc c'est international maintenant.
Oui, depuis plusieurs années déjà, même si c'est quand même essentiellement des groupes en France, mais quand même, oui, il y a des groupes ailleurs également. C'est un mouvement qui est né à la base au Pays Basque, mais qui vraiment aujourd'hui s'est développé ailleurs. Alternativa, ça veut dire alternative en basque, de fait, par l'origine historique. Alternative par rapport au problème du dérèglement climatique et au problème de justice sociale qui va avec. Donc vraiment, l'objectif d'Alternativa, c'est de militer pour le climat et la justice sociale. C'est un mouvement qui réunit des citoyens et citoyennes comme nous tous, tout simplement, qui à un moment prennent conscience de ce qu'est la réalité du dérèglement climatique, parce qu'aujourd'hui on a tellement d'informations données par notamment des scientifiques sur la situation chez nous et partout dans le monde par rapport à cette problématique, que il y a vraiment c'est un enjeu très fort de notre époque, capitale même. Et en tant que citoyen et citoyenne, on peut se demander comment on peut agir pour ça, notamment quand on se rend compte que les choses qui devraient être faites à l'échelle de ceux qui gouvernent, de ceux qui ont le pouvoir, sont clairement insuffisantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on prend conscience que faire des choses, opérer des changements à son échelle, dans sa vie quotidienne, dans ses gestes quotidiens, c'est bien sûr important, nécessaire, mais que clairement c'est insuffisant, que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir vraiment inverser la tendance. On se rend compte dans son cheminement personnel, enfin on est très nombreux, nombreuses à avoir fait ce cheminement-là, que l'étape suivante, si on veut espérer changer les choses, c'est de se rassembler, se retrouver avec d'autres et de plusieurs en se mobilisant, pouvoir dénoncer les choses qui ne vont pas et puis soutenir tous les projets, toutes les alternatives qui existent aujourd'hui, qui vont dans le bon sens et qui ont besoin aujourd'hui de changer d'échelle, de grandir, de prendre plus de place et de remplacer en fait toutes les façons de faire qui sont plus compatibles avec cette situation du climat.
Donc, Alternativa, ça va être aussi beaucoup de la promotion de projets alternatifs auprès des instances de pouvoir.
Oui, des instances de pouvoir, et puis tout simplement auprès des gens. Faire comprendre qu'on peut changer les choses, et que c'est possible, que c'est abordable pour beaucoup d'entre nous, de changer sa façon de s'alimenter, sa façon de se déplacer, de changer sa banque, c'est un levier très important. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire, alors qu'on ne peut pas tous faire. Ça ne veut pas dire que tout est possible pour tout le monde, en fonction de ce qu'on vit, de où on vit, de nos ressources,
ses propres moyens,
nos moyens. Voilà, on ne peut pas tous faire la même chose. On n'est certainement pas dans l'idée que tout le monde devrait absolument se déplacer à vélo. Et parce qu'on sait bien que ce n'est pas forcément possible quand on habite au fin fond de la campagne ou dans un endroit qui n'est pas du tout desservi par les transports en commun. C'est tous ces sujets-là qu'on veut mettre en lumière pour qu'ils prennent plus de place en fait, dans nos pratiques, dans les pratiques en général.
Nous, justement, à Amnesty International, on commence de plus en plus à s'intéresser à tous les mouvements qui concernent l'écologie. Parce que ce qu'on avait du mal à voir avant, c'est qu'effectivement, il y a toute une dimension de justice sociale qui est très, très importante et qui, pour Amnesty International, est aussi très importante à porter. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quoi ça consiste la justice sociale quand on parle d'écologie ? Parce que souvent, on a plus l'habitude de voir le côté l'alternative écologique, donc énormément de projets, que ce soit, des maisons qui produisent moins de... qui gaspillent moins d'énergie, par exemple, ou les alternatives de transport. Mais on voit assez peu, finalement, le côté justice sociale.
Ben, en fait, le premier constat de tout ça, c'est que les premières personnes impactées par le dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus pauvres. Et ça se retrouve à l'échelle de la planète. C'est les pays du Sud qui sont aujourd'hui déjà impactés par les problèmes de sécheresse, donc la famine qui en résulte. Donc déjà, à l'échelle de la planète, c'est un constat. Et c'est la même chose à notre niveau aussi. C'est les personnes les plus fragiles, les publics les plus fragiles qui sont les premiers impactés par des événements climatiques extrêmes, par exemple. Donc, c'est déjà un souci assez fort, forcément, si aujourd'hui on fait partie des gens, les catégories les plus aisées, on est les plus à l'abri de tous ces impacts-là. On peut se dire, oh, il fait chaud, c'est pas grave, j'installe la clim chez moi. Et clairement, c'est pas ça qu'on défend. On défend une idée de l'écologie populaire. On défend aussi l'idée de vouloir nous rapprocher des mouvements populaires. C'est des choses qui sont assez fortes dans le mouvement Alternatiba. Il existe, par exemple, à Paris, des projets qui ont été montés à la Courneuve, si je ne me trompe pas, d'une maison d'écologie populaire portée avec des associations de quartier. C'est des choses importantes sur lesquelles on veut absolument travailler pour oublier personne dans ce grand enjeu qu'est le dérèglement climatique.
C'est vrai que ça a souvent un impact sur les populations les plus pauvres et malheureusement, ce qu'on a pu constater à Amnesty International, c'est que souvent les populations les plus précaires, c'est sur elles qu'on fait porter le poids de l'écologie. Notamment il y a quelques années avec le prix de l'essence, mais bon, ça recommence très très fort en ce moment. Et notre ancien secrétaire général disait que voilà, on ne peut pas faire porter les responsabilités de l'écologie sur les populations les plus précaires et que c'est au gouvernement de vraiment prendre des mesures et aux instances de pouvoir. Et justement, en ce moment, vous avez un projet qui va s'inscrire dans cette dénonciation et dans la demande aux instances de pouvoir de faire quelque chose, et ça concerne du coup l'espace aérien. Est-ce que Marie-Noëlle, tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Ben oui, ça tombe très bien. Donc, on a une campagne qu'on appelle la campagne aviation, mais en fait, c'est un groupe qu'on a formé avec Greenpeace et un grand nombre de citoyens, dont certains chercheurs d'ailleurs à Montpellier qui ont signé des tribunes dans les journaux. Ce collectif s'appelle Atterrissons d'urgence. Donc, c'est un collectif citoyen, mais soutenu par Alternatiba et Greenpeace, ici à Montpellier. Mais ça s'inscrit dans une campagne nationale en plus. Et c'est vrai que le moteur, enfin le premier moteur, c'est évidemment de dire pourquoi, alors que tous les voyants sont au rouge, comme on dit, le GIEC voit rouge, mais l'aviation continue à voir les avions verts. Quoi. Ils n'ont absolument pas pris conscience de l'urgence climatique. Donc ça, c'est la première évidence. On imagine le secteur aviation, c'est à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est même plus que ce qu'émet l'Allemagne. C'est comme si on allait demander à l'Allemagne de ne pas faire d'efforts. Donc c'est absolument hallucinant. Le secteur aérien continue sur la même lancée qu'avant. Et c'est un secteur qui concerne, alors en parlant de justice, c'est justement un secteur qui ne concerne qu'une petite minorité de la population mondiale et qui fait peser sur l'ensemble du monde le poids de son impact sur le climat. Donc il y a, un côté extrêmement injuste. D'ailleurs, globalement, les plus riches émettent on a un impact beaucoup plus fort sur le climat. Et ça impacte les plus pauvres, qui sont eux qui ont le moins d'impact. Alors, dans l'aviation, c'est assez flagrant. Et même quand on parle des low cost, alors le grand thème, c'est « Oh, mais maintenant, on a rendu l'avion démocratique ». C'est pas vrai. Les chiffres le montrent. C'est évidemment qu'il y a un peu plus de monde qui prend l'avion à des prix défiant toute concurrence. Mais c'est en général, les études montrent qu'en fait, ce sont les mêmes personnes qui prennent plus souvent l'avion parce qu'il est de moins en moins cher. Et on continue au niveau mondial à avoir 80% de la population mondiale qui n'a jamais mis les pieds dans un avion.
Oui, donc au niveau mondial, l'injustice reste
flagrante.
Totale,
elle est vraiment flagrante. Et il faut vraiment comprendre que les avions, ça circule dans le monde entier. L'impact, il est sur le monde entier. Et c'est juste une petite partie des nantis de la planète qui utilisent les avions.
Et là, aujourd'hui, justement, à Montpellier, vous avez le projet, vous portez le projet parce qu'il y a un problème au niveau de la circulation. Problème.
Mais en fait, c'est un problème qu'on retrouve à Marseille, à Lille, à Paris. C'est-à-dire que le secteur aérien s'exonère de toute obligation en matière de réduction des gaz à effet de serre, avec un seul argument: un jour, on aura des avions à hydrogène, donc allons-y. Et c'est le seul secteur qui affiche, mais sans aucune honte, d'augmenter son impact, puisque à Montpellier, ils veulent passer de 1,9 million maximum de passagers par an à 3 millions. Et c'est affirmé clairement. Alors, quand on parle d'extension de l'aéroport à Montpellier, ce n'est pas une extension physique, mais c'est une intensification du nombre de vols. C'est un réaménagement des installations de façon à augmenter le nombre de vols. Il n'y a qu'à voir, depuis un an, le nombre de destinations européennes au niveau de Montpellier a explosé. Donc, ça fait ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, le directeur de l'aéroport s'en vante. Il dit qu'ils n'ont jamais fait une aussi bonne saison que cette année, en offrant des vols à très bas prix pour aller dans toutes les villes européennes. Et ils vont maintenant encore ouvrir le vol Madrid, le vol Montpellier-Madrid, alors qu'on a un train direct pour Madrid.
Oui, d'ailleurs, en fait, ça pose problème aussi, parce que les prix des trains sont de plus en plus élevés, j'ai l'impression, alors que, justement, l'avion, ça reste relativement stable.
Il y a un véritable problème de la vérité des prix. Parce que, vraiment, quand on compare le prix du train et le prix de l'avion, la plupart du temps, c'est l'avion qui est moins cher, avec les low cost, hein, qui ont aussi un modèle social qu'on peut quand même discuter. Et en fait, parce que c'est assez opaque, c'est pas clair de savoir pourquoi ils peuvent faire des vols à 30 euros pour aller à Paris, alors que le même trajet en train coûtera autour de, au mieux, 45-50 euros quand vous vous y prenez à l'avance. Et où est la vérité des prix quand on dit que ça s'inscrit dans le libéralisme et l'économie? Ben là, on voit très bien que les prix, quelque part, ça ne représente plus rien. Il faut aussi savoir que ces prix-là s'adossent sur certaines facilités. Le kérosène est totalement détaxé, alors que si on se met à taxer le kérosène comme on taxe le gasoil à la pompe, c'est peut-être que le prix changerait. Et c'est anormal, encore une fois, pourquoi faire ces cadeaux à une des entreprises les plus polluantes? Actuellement, c'est quand même un secteur très polluant. Et cerise sur le gâteau, actuellement, en tous les cas, dans la région de Montpellier et Occitanie, il y a un soutien des élus, un soutien des décideurs politiques complètement et absolu à l'avion. Il faut se rappeler qu'en Occitanie, il y a 10 plateformes aéroportuaires. Et tout dernièrement, la région vient de voter un grand plan à 5 ans de développement durable avec plein de choses intéressantes dedans. Mais là-dedans, ils affirment, alors qu'ils parlent de développement durable et d'environnement à toutes les pages, ils affirment clairement leur soutien absolu au maintien des 10 plateformes aéroportuaires, à l'augmentation du trafic aérien, malgré des objections de l'autorité environnementale qui leur a dit « il faut que vous remettiez ça à plat et que vous regardiez et mettre peut-être l'argent public sur des transports moins polluants ». Ils sont passés outre, ils sont passés outre des avis du commissaire enquêteur. Donc, il y a pour le moment une bataille culturelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer, et ça fait partie justement de notre objectif, c'est de vraiment commencer à faire monter de plus en plus cette petite musique, de dire l'avion, non, ce n'est pas neutre, l'avion n'est pas l'alpha et l'oméga du développement du tourisme. L'avion, c'est ce que vous croyez pas cher, c'est en fait très cher si vous imaginez tous les impacts sur le climat. Donc c'est un travail de longue haleine. On se rend compte que, et notre première lutte, c'est de faire supprimer les navettes Paris-Montpellier, alors qu'on a 12 TGV qui vont par jour.
Effectivement, il y a beaucoup de trains qui y vont. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait, vu qu'il y a tous les élus qui sont finalement dans la poche de l'industrie de l'aviation, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce genre de décision de la part des élus?
C'est le gros travail, d'une part, de plaidoyer, la presse, faire tout le temps de l'information. On fait aussi des actions un peu plus spectaculaires à certains moments de l'année pour mettre en évidence. et surtout bouger le public en même temps. Donc il faut vraiment, comme on a fait pendant des années pour l'écologie en général et le changement climatique, c'est-à-dire de faire prendre conscience de plus en plus. Évidemment, on pourrait aussi aller sur le tarmac et empêcher les avions de décoller, mais je pense qu'on y perdrait plus qu'on y gagnerait. Encore que l'accident d'avion d'il y a 15 jours, là, l'avion qui s'est en bout de piste, qui a raté la piste et qui est allé plonger dans l'étang, ça aurait été quand même assez intéressant. Enfin, heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni rien. Mais imaginez que cet avion était un peu plus loin, qu'une aile se soit cassée, et c'est 6 tonnes de kérosène dans l'étang en face de l'aéroport, dans l'étang de l'Or, qui est à la fois une zone Natura 2000, une zone Ramsar, donc une zone ultra protégée.
Ah oui, donc ça, c'est juste à côté de l'aéroport.
C'est juste, c'est en bout de piste.
C'est vraiment très, très dangereux.
Alors là aussi, nous, on a commencé à se démontrer dans toutes les cartes de la montée des eaux. Dans quelques années, l'aéroport va avoir un mal fou à ne pas être inondé. Donc à chaque épisode un peu fort, ça va monter.
Ça fait partie effectivement aussi des arguments.
Et un autre argument, alors on nous répond toujours emploi, et c'est vrai qu'il y a, et que les salariés sont assez fiers de leur boulot, c'est un secteur d'activité où globalement les employés sont assez fiers de leur boulot, mais, et qui sont très compétents, et ça... C'est justement ce qu'on demande, c'est de dire, pensez à l'avenir. Toutes ces personnes très compétentes, elles peuvent être reconverties dans d'autres activités économiques. Personne ne demande d'arrêter l'avion du jour au lendemain et de mettre toutes ces personnes au chômage.
Oui, c'est quelque chose qui se fait forcément progressivement.
On a discuté, on va loin. Maintenant, on essaie de rencontrer les élus, mais on a rencontré les équipes de l'aéroport, etc., pour essayer de discuter, mais ils nous répondent emploi, ils nous répondent volonté politique, ils nous répondent économie en général. Donc pour le moment, on sent bien que ça ne bougera pas. Mais à Toulouse, qui est quand même la capitale de l'activité avion en France, avec la grosse école des ingénieurs Supaéro, je crois que ça s'appelle, ils ont créé un groupe qui est en train de réfléchir à l'après. Pour justement que toutes ces compétences et ces grands niveaux de compétences puissent être mises au service d'activités plus climato-compatibles, comme on dit.
Oui, plus responsables.
Plus responsables, voilà. Alors, et puis le simple passager, il y a des réflexions. Il doit aussi essayer d'être plus responsable dans ses choix de voyage.
Oui, c'est pour ça que vous faites de l'éducation aussi.
Oui, voilà. L'idée, c'est comme Alternativa, c'est-à-dire de la mobilisation très large, du plaidoyer et puis des actions un peu plus punchy pour que ce soit visible et qu'ils sentent qu'il y a une opposition.
Oui, tout ça est un travail très complémentaire. Alors du coup, j'imagine que vous avez besoin de bras ouais. et de cerveau pour participer à tout ça. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ?
Alors là, il y a quelque chose de tout simple. Je vous dirais, il y a une adresse mail. Tu la connais par cœur ?
Oui. C'est montpellier@alternativa.eu, montpellier@alternativa.eu, ou bien notre page Facebook, notre compte Instagram ou notre compte sur Twitter, Alternativa Montpellier.
Voilà, tout simplement.
Bon, moi, je sais qu'ils sont très réactifs hein, parce que je les contacte sur Facebook. Donc, il n'y a aucun souci pour les contacter, vraiment.
Oui, il faudrait passer par là et après, on répond très vite.
Et du coup, après, j'imagine que ça consiste à participer à des réunions, puis ensuite participer à des actions selon les disponibilités, les capacités de chacun et de chacune.
Et j'ajouterais quelque chose qui est quand même assez caractéristique aussi, c'est qu'on essaye toujours de garder... La situation est grave, on s'attaque à des sujets très graves, mais il y a toujours de la convivialité, de la bienveillance, c'est vraiment nos maîtres mots dans le fonctionnement du mouvement, et ça c'est, je pense, un point qu'il faut toujours mettre en avant aussi.
Tout à fait, oui. Si vous voulez rejoindre Alternativa, du coup, il y a toujours de la bienveillance. Un petit mot pour finir, Agnès, je crois que tu avais une annonce à faire.
Oui, peut-être vous dire que le groupe Alternativa a un projet cette année déjà bien avancé pour avoir notre local qui s'appellera la base d'action
écologique
et sociale. Manquait une lettre, mais c'est pas très grave. Oui. Bref, un local, c'est surtout ça l'important, qui soit un lieu ouvert vraiment à tous, au plus grand nombre, plutôt dans le centre-ville de Montpellier. On recherche donc un local à louer, qui nous permettra de mettre en place des événements, des temps de rencontre, des réunions, des temps de formation, des événements culturels, conviviaux aussi, un café associatif. Et ce sera un lieu inter-organisation, puisque c'est un projet qu'on porte avec donc, notre groupe Alternative à Montpellier, mais aussi le groupe Greenpeace Montpellier et le groupe Extinction Rébellion de Montpellier. On cherche donc à louer un local d'une superficie d'environ 150 mètres carrés minimum, plutôt dans le centre-ville, Écusson et plus. On a lancé un financement participatif cette année qui a très bien fonctionné. On a pu collecter vraiment une somme d'argent qui nous permet vraiment de pouvoir aborder ce projet-là comme il faut. Et on a plein d'idées pour en faire un lieu de rassemblement justement pour le climat et la justice sociale. Donc si vous connaissez des gens, entendez parler de quelqu'un qui loue un local de ce type-là, on est preneur.
Bah, du coup, voilà une autre façon d'aider Alternativa. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie à vous d'être venu m'accompagner pour Amnesty International.
Merci à toi.
Et merci.
Et je souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs et nos auditrices.